L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Pascal Leboucher, une boucherie de quartier qui nous tient à cœur.
Ah, le Québec! Cette province où l'on retrouve du sirop d'érable, des bons fromages, le fameux homard de la Gaspésie et des vins d'une grande qualité. Et oui, nous n'avons pas peur de le dire, au Québec, il est possible de faire du bon vin. Moi, c'est Joël.
Moi, c'est Florence. Joël était curieux, puis cherchait à suivre une formation professionnelle sur la production de vin artisanal.
Mais tout ce que je trouvais, c'était des vidéos YouTube, des blogs et le fameux apprentissage sur le tas.
On s'est dit qu'il faudrait aller à la rencontre des producteurs locaux et discuter avec eux de leur vision qu'ils ont de leur travail et du Québec agricole de demain. Lors du premier épisode, on a eu la chance de s'entretenir avec John Winter Russell et Vincent Laniel.
Les gars nous ont donné un point de vue fort pertinent sur la viticulture québécoise depuis leur siège de restaurateur.
Cette semaine, on va rencontrer quatre gars qui ont aussi fait leur classe dans l'industrie de la restauration.
Ils se sont rencontrés au restaurant syrien le réputé Damas à Montréal et ont entrepris finalement à quatre cette aventure qu'est Lieu commun. Ils vont tenter de nous expliquer aujourd'hui en quoi consiste leur projet.
Bonjour, moi c'est Daniel, je suis sommelier et copropriétaire de Lieu commun.
Salut, moi c'est Thibault. Je fais pas mal de choses, mais je suis entre autres le président de Lieu commun, donc c'est ça.
Moi c'est Laurent Noël, partenaire avec Lieu commun. Levin Via et Meta Agro-Industrie.
Bonjour, moi c'est Guillaume Laliberté, président de Meta Agro-Industrie Incorporée, copropriétaire de la marque Lieu commun, sommelier et actionnaire de Levin Via Incorporée.
Bonjour les gars de Lieu commun!
What's up?
Bienvenue sur notre podcast, Vendange ouvert.
Est-ce que vous voulez nous parler un peu à tour de rôle d'où vous venez? Vous venez tous de différents horizons. Juste nous faire une petite présentation de qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites.
Fait que moi, Daniel, je suis sommelier au restaurant Damas. J'ai grandi en Nouvelle-Écosse. J'ai déménagé à Montréal pour faire une maîtrise en philo en 2014. Puis, j'ai tourné vers le vin à la place de la contemplation.
La praxis. Moi, Thibault, je suis en architecture. J'ai rencontré, Laurent, en fait, je le connais depuis longtemps, mais j'ai rencontré Guillaume Pidane au restaurant Damas. Puis, c'est ça, là. En ce moment, je fais un peu d'architecture, un peu de vin, on va voir où ça nous mène.
Moi, c'est Laurent Noël. Comme ça a été dit, là, je suis un ami d'enfance à Thibault. J'ai rencontré Guillaume et Daniel au travers de lui. Au niveau du background, j'ai étudié à Rimouski, travaillé sur les bateaux dans l'Arctique pendant 5 ans avant de rentrer au pilotage pour être pilote sur le fleuve Saint-Laurent. Fait qu'à temps mort, ben on s'occupe des vignes et de faire du vin aussi.
Ben moi, Guillaume, comme ça a déjà été dit, là, on opère la sommellerie au restaurant Damas, Daniel et moi. J'ai un background dans le monde du vin, travaillé sur des vignobles québécois, travailler en agence d'importation. Damas, c'est ma deuxième carte de vin, mais en fait, ma troisième carte de vin que je gère, là, deuxième en tant que sommelier in-house. Background de vin, c'est ça, comment dire.
Puis, juste pour nous mettre un peu en contexte, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut nous dire où on se trouve aujourd'hui?
Oui, bien, on est dans le chai urbain de Meta Agro-Industrie. En fait, c'est la compagnie sur laquelle on a nos permis. C'est ici que Lieu commun va faire ses vins pour la première fois en 2021. Puis on pense aussi potentiellement comme accueillir peut-être des collaborateurs, des gens qui viendraient comme vinifier chez nous dans les années à venir.
Donc on est à Montréal.
Exactement, à Montréal, au marché central, juste à côté du Canadian Tire pour ceux qui connaissent
le coin. À côté du Canadian Tire sur le Jaune. Le coin. Charlotte au Maroussé.
Ashtarout.
Ashtarout qui nous nourrit. Mais c'est ça, c'est qu'on a bâti un chai on a aménagé un chai dans un édifice industriel qui est loué en partie par la Centrale Agricole, qui est une coopérative d'agriculture urbaine, qui regroupe un paquet de projets, que ce soit de la pisciculture, il y a une cidrerie, Cid Sauvageon sont au troisième étage. Il y a des gens qui font des insectes pour la consommation humaine, il y a des trucs de champignons, il y a des semenciers artisanaux, il y a Véro de Vigne en Ville aussi, on pourra en parler peut-être plus tard, là, mais Vigne en Ville a des vignes sur le toit de cet édifice-là. Donc, c'est ça, on a intégré la coopérative Centrale Agricole pendant l'été 2021, là, donc à l'aube du millésime 2021.
Nice. On pourrait y revenir en détail un peu plus tard. On va commencer ben, en fait par le nom, par le nom que vous avez, Lieu commun. C'est quelque chose, parce que c'est un terme très rassembleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la signification que ça a?
De plus en plus de signification. Genre, chaque année, on rajoute une... c'est un peu par hasard qu'on a tombé sur le nom, lieu commun, le terme qui en parlance, veut dire banalité ou cliché. Genre, un lieu commun, c'est un cliché. Genre, voilà.
Ben, c'était, on jouait au début, c'est qu'on jouait sur le double sens de partager un espace, donc un lieu communautaire, partager un espace comme on était en résidence chez Grand Saint-Charles quand on est arrivé avec le nom, mais c'était aussi de jouer sur le fait qu'on utilisait des cépages communs du vignoble québécois, les Frontenac noirs et gris, ce qui fait que c'était l'idée, c'est de donner un visage propre à nous, à certains lieux communs du vignoble québécois, puis on parlait à ce moment-là des cépages, donc c'est le double sens, c'était quelque chose qui est commun, connu de tous, et aussi l'espace partagé, comme on était en résidence chez quelqu'un d'autre. Donc, puis là, maintenant, ben là, il y a des layers. Maintenant, plus on lit sur le terme lieu commun, tu sais, ça réfère aussi à des expériences, à des objets, à des visions qui sont, tu sais, peut-être on pourrait dire basic un peu, dans le sens où un lieu commun, c'est quelque chose que tout le monde a déjà vécu, que tout le monde a déjà vu, que tout le monde a déjà expérimenté. C'est un peu péjoratif comme terme. Là,
une croyance qui n'est pas remise en question. Ouais, voilà.
Fait que c'est un peu ça.
Genre, le bon vin se fait pas au Québec.
Genre, tu sais, des voilà. Trucs comme ça. Fait que c'est. Il y a toujours dans notre imaginaire cette idée de jouer avec le cliché puis le démonter un peu en même temps. C'est d'être sur le. Un peu sur le même chemin que les autres, mais de faire une. D'en être conscient d'abord.
Ouais.
Puis à partir du moment que tu es conscient d'être sur le même chemin que les autres, est-ce que tu es vraiment sur le même chemin que les autres? Puis après ça, c'est de donner un visage propre à. D'en donner une interprétation propre à nous de ce lieu commun-là. Là.
Mais là, on se retrouve dans une coopérative agricole, tu sais. Fait que l'idée de lieu commun partagé, on partage cet édifice ici non seulement avec. Les agriculteurs, les pisciculteurs, aussi avec des ébénisteries, gars qui impriment les t-shirts. On est à côté de les importateurs de fruits pour les IGA, là, etc. Fait qu'on est au marché central de Montréal.
Il y a beaucoup dans notre présence dans la centrale agricole, puis en ville aussi, il y a beaucoup de faire partie de la vie communautaire, puis je pense qu'on pourra en reparler, là, mais c'est comme intégrer une communauté, puis la dynamiser par telle ou telle action. Fait qu'il y a ça aussi qui fait partie de lieu commun.
C'est cool parce que, tu sais, c'est, dans le fond, vous faites du vin, puis c'est rare, les ceux qui font du vin, puis qu'il n'y a pas le mot domaine ou vignoble en avant. Fait qu'il y a quelque chose de catchy aussi dans le fait que ce soit juste un nom comme ça, lieu commun. C'est un peu mystérieux, tu veux comprendre qu'est-ce que c'est. Puis...
Clairement que ça démonte l'image traditionnelle du vigneron québécois ou du domaine québécois.
Mais c'est intéressant, l'espèce de... Comme tu dis, là, c'est les couches qui s'ajoutent, puis ça fait de plus en plus de sens, ce nom-là. Là. On dirait que c'est comme... C'est parti de quelque chose, d'une idée, puis là, plus ça avance, plus il y a encore plus de liens à faire avec tout ça.
Dans l'édition spéciale « Vin québécois » du magazine Caribou, paru en 2018, il y a un tout petit paragraphe qui fait mention d'un projet expérimental des gars du Damas qui se fait à Magog, puis qui serait comme une espèce de plantation de pinot puis quelques hybrides. Jusqu'à récemment, votre modèle d'affaires représentait plutôt quelque chose qui s'apparente à de la négoce. En fait, pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé là? Comment vous êtes passé de cet article-là du Caribou à ce qui était, mettons, votre millésime 2020?
Ben, comme tu disais, on est quand même un peu mystérieux. Cette parcelle-là, c'était un projet, c'était peut-être le début du projet de lieu commun.
Oui, c'est définitivement.
Ça a commencé pour le fun.
Puis c'est quand même, en fait, c'est quand même une bonne question parce que ça nous permet de comme un peu... résumer comment on a commencé. En gros, les quatre, on avait envie de faire du vin au Québec. Là, on avait comme une parcelle que quelqu'un était prêt à comme nous prêter, mettons, qu'on pouvait comme entretenir puis planter pendant une couple d'années. Fait qu'on s'est dit un peu naïvement, genre, ouais, OK, on va planter comme 1000 pieds de vigne, puis on va voir, puis on va... Puis c'est comme au fur et à mesure de cette expérience-là qu'on a réalisé, bon, ça prend beaucoup plus d'efforts, entretenir des vignes, faut être là aussi. On était comme dans l'année de préparation du sol, on avait fait notre commande de vignes.
Sarrasin, là.
On avait mis des engrais verts, on avait, en tout cas, on avait quand même, tu sais, commencé à travailler ça.
Puis analyses, puis tout ça.
Puis c'est ça, tu sais, les analyses de sol, etc. Mais on savait, bon, qu'en plantant, ça nous prendrait comme, mettons, 5 ans ou 4 ans, 5 ans avant d'avoir des résultats. Fait qu'on savait que c'était comme sur le long terme. Fait qu'en parallèle, on a comme eu une occasion de ben, Guillaume avait rencontré Martin du Grand Saint-Charles. Une occasion de faire commencer à faire du vin un peu là-bas, comme en collaboration avec lui. Puis, ben, c'est ça, petit à petit, on a réalisé que, tu sais, planter, admettons, dans un terrain, sur un terrain qui était quand même assez loin de Montréal. On n'était pas là si souvent que ça. Tu sais, c'était pas tellement réaliste. En même temps, ça nous a comme appris beaucoup sur genre combien ça coûte en termes d'argent, de temps, d'implication, partir un vignoble. Fait que c'était quand même une bonne expérience pour nous. Puis c'est peut-être un peu ça qui nous a plus comme aiguillé sur, entre guillemets, travailler en négoce pour commencer.
Tu sais, grosso modo, lieu
plus
comme
plus accessible pour
ouais.
nous.
Puis tu sais, aussi... La dynamique, l'énergie du quatuor, c'est qu'on apprend en le faisant. Y a pas, on n'a pas dit... On s'est pas mis à faire des plans pendant des années, couchés sur papier, sur ce que ça aurait l'air, un vignoble, si jamais... À partir du moment qu'on s'est dit, est-ce qu'on veut le faire, ça a vraiment pas pris de temps que le propriétaire du terrain était mis au courant, ça a vraiment pas pris de temps que le sol était retourné, ça a vraiment pas... T'sais. Fait que c'était... T'sais, cette parcelle-là, c'était... La première expression de l'urgence de faire puis d'apprendre en le faisant. Là, on s'est toujours lancé vraiment. On n'a pas souvent second-guessé nos décisions.
On n'a pas wing it, là, mais c'était réfléchi d'une certaine façon, mais on n'a jamais hésité, là, comme tu dis, à se lancer puis à essayer quelque chose. Dès qu'on avait une ouverture, on l'a prise.
À faire le move, mais aussi à se rétracter, j'ai l'impression, parce que justement, vous avez décidé de ne pas planter
ouais.
cette vigne-là.
Ben, c'est d'apprendre de ton expérience aussi.
Ouais.
C'est ça que... Fait que oui, on n'hésite pas à essayer des nouveaux trucs, mais on n'est quand même pas cave, fait qu'on apprend un peu.
C'est ça.
On apprend... Ben, on est peut-être cave d'essayer plein d'affaires comme ça, mais après, on essaie au moins d'apprendre de nos expériences.
C'était à 10 minutes depuis Pinard-et-Fils, ce terrain-là.
Ah ouais.
Ouais, c'est vrai.
Et cette parcelle-là qui n'a jamais vu le jour, mais qui a donné jour au projet, on a rencontré Laurent intégré. Thibault nous a présenté Laurent à Dan puis moi pour cette parcelle-là d'abord, pour le projet de cette parcelle-là d'abord. Puis là, c'est ça. En parallèle, il y a eu l'opportunité d'acheter un peu de raisin. Après ça, il y a eu. Martin vous l'a dit dans son épisode, mais tu sais, on est allé faire la Ride Autobus, la belle rencontre, puis on est allé faire le premier test de vinification chez Grand Saint-Charles en 2018. Tout petit tirage de 250-260 bouteilles. Puis bon, comment dire, les fonctions qu'on occupe, tu sais, Laurent non plus, pas très loin de la restauration par alliance et du monde du vin par alliance, si on peut
dire.
Ouais. Non, mais tu sais, ça pour dire que les premiers vins de 2018 ont trouvé leur place dans des très beaux établissements de restauration. Si on parle les, puis c'était chez les potes, dans le fond, là, t'sais, Alexis au Mousseau en a acheté, Rosa au Paloma en a acheté, John au Candide en a pris, Joseph qui travaillait dans ce temps-là pour Bouillon Bilk en a pris. C'est tous des gens qui étaient les premiers à l'extérieur de nous, plus Martin Laroche, disons, qui avaient goûté au vin. Fait qu'on on les a présentés, puis ça a donné que les amis à qui on a présenté les vins, ben, c'était des gens qui avaient des jobs d'acheteurs dans des restaurants et des trucs comme ça. Fait que les vins ont trouvé preneur.
On avait fait un gros rassemblement aussi. Là. On avait tout invité tout le monde au Damas. C'était beaucoup plus officiel comme lancement. Je pense que c'était possible dû aux petites quantités qu'on avait aussi. Là.
Ouais.
C'était, cette cuvée-là, en fait, ce millésime-là que vous avez fait chez Grand Saint-Charles, c'était expérimental, il y avait une partie de risque ou c'était
oui.
c'était
complètement
c'est très expérimental. Là.
Ouais, on a acheté, ben, c'était
tellement petite que la risque n'était pas vraiment très élevé. Fait que ouais,
on pouvait se permettre des trucs.
C'est drôle, Martin, il a mentionné un jus qui était brun à la presse. C'est drôle, c'est un des seuls vins qu'on a sulfité dans notre carrière, ce vin-là. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on aurait laissé brun parce ouais, que maintenant, on a appris que l'oxydation des moûts, ça a vraiment un effet intéressant sur des cépages acides, surtout le Frontenac gris. Fait ouais, on aurait bruni le mou par exprès, disons, en 2021. Ouais. Puis là, on était sur place, il y avait du jus brun, on savait pas quoi faire. Ouais. Martin, il avait pas vu ça non plus. T'sais, c'était vraiment, on a vraiment beaucoup appris cette première millésime, là.
Puis comme les risques étaient petits, comme les quantités étaient petites, c'était notre on s'était donné ce mandat-là d'essayer puis d'aller au plus loin possible. Là où Martin, ou même nous, si on, d'une manière rationnelle, on n'aurait pas été tenté d'aller, ben le mandat de ces cuvées-là, c'était d'aller le plus loin possible.
C'était maintenant ou jamais. C'était ouais, le temps de l'essayer, les trucs. Puis ouais, en même temps, ça. Martin, il voyait ça, puis lui, il était content de nous voir aussi essayer des trucs. Ça ouais, lui permettait...
Il apprenait aussi.
C'est
là,
ça. Ça permettait de faire une ouais, des expériences aussi
indirectement. Fait que les 20 lieux communs sur 18, puis on a essayé de pérenniser ça. C'est que il y avait deux trucs importants. Ça a été de la recherche et développement pour à la fois nous et pour Martin du Grand Saint-Charles. C'était de pair cette démarche-là de recherche et développement. Puis ensuite de ça, ben quand on s'est rendu compte que l'avantage entre faire le vin dans un garage et le faire chez quelqu'un d'autre, c'était que il y avait le petit sticker du gouvernement, de la RACJ qui permettait que ça soit présent en restaurant, on a trouvé que c'était... C'est arrivé par hasard, mais on a trouvé que c'était très, très, très... que c'était une belle idée que de... la première année, il n'y a pas eu de vin, mais quand on s'est rendu compte que les vins pouvaient se rendre en restaurant, on s'est dit, OK, ben on va peut-être en faire un peu plus l'année prochaine, parce qu'on se rendait compte aussi, tu sais, bien humblement, là, pendant ce temps-là, bien honnêtement, pendant ce temps-là, on continuait à chercher des terres pour planter. En fait, c'est ça, c'est qu'après la parcelle, quand on a dit on veut pas planter sur une parcelle qui est à 1h30 de chez nous, qui nous appartient pas, puis ça, on continuait quand même à magasiner les propriétés agricoles pour s'implanter, parce que le but à ce moment-là, c'était devenu de faire un vrai vignoble, pas juste une parcelle expérimentale. Fait que quand on s'est rendu compte qu'on pouvait vendre les vins, pas seulement en dessous de la table, mais on pouvait vendre des vins en restaurant et développer un brand et développer un marché, ben on s'est dit, mais quelle opportunité géniale que de pouvoir commencer d'abord à accumuler un petit peu de sous. Ben, il y a zéro sous qui est rentré dans nos poches, même beaucoup moins que ça depuis 5 ans. Mais ça reste que notre petite compagnie qu'on a fondée en 2018 nous permettait de faire des vins avec le Grand Saint-Charles. Nous, on agissait en tant que représentant de ces vins-là, en tant que vendeur représentant ouais, de ces vins-là au sein de la restauration. Bon, ça nous a permis de bâtir une clientèle qui était, quand est venu le temps de passer aux choses sérieuses en 2021, faisait partie de notre candidature, de notre dossier qu'on a déposé pour aller chercher un prêt pour vrai. T'sais. On disait, regarde, on a telle clientèle, on a fait sur tant de bouteilles, on sait qu'on peut avoir tel genre de croissance. Ben là,
Puis justement, comment le produit, le premier produit que vous avez sorti, comment il a été reçu?
Ben, c'était comme surprenant à quel point que c'était bon, pour être honnête, là. Genre, on savait pas ce qu'on faisait. Puis on était des sommeliers, tu sais, qui buvaient beaucoup de vin. Puis on avait beaucoup de références, on avait beaucoup lu, on est des gars curieux, genre, en général. Mais tu sais, pratiquement, on savait pas ce qu'on faisait. Puis on avait des idées, on les a suivies, puis ça a marché. Puis le monde était d'accord avec nous, je pense, pas mal.
Fallait pas avoir peur.
Non, tu sais, ouais, on a fait une pétnate rouge, tu sais, je veux dire.
Puis c'est ça, tu sais, comme Dan parlait tantôt de un petit peu de sulfite qu'on a mis dans un des trois vins cette année-là, parce que bon, on savait pas, puis bon, on avait peur de l'oxydation des moûts, puis tout ça, mais ça reste que sur les deux autres, on a absolument rien mis. Puis je pense que cette année-là, tu sais, c'était vraiment comme... cette année-là, ce qu'on s'est dit, c'est comme, je pense, ben, vous me corrigerez si j'ai tort, mais c'était comme, on a entendu dire, à ce qui paraît, tu sais, si tu fais juste presser du raisin, tu prends le jus, tu mets rien dedans, puis t'attends un peu, ça va faire quelque chose de le fun. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait cette année-là, avec des cépages hybrides, ce qui était comme quand même relativement rare à l'époque au Québec. Puis je pense que les années après, ça a été de comme raffiner un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire, mais en ayant tout le temps un peu comme cette démarche-là à la base. Mm-hmm.
Ouais. Fait que dans le fond, un des impairs, en fait. Pouvez-vous nous parler de votre démarche en termes de ce qui était impératif pour vous, tu sais, mettons en termes de raisins utilisés, en termes de vinification?
Raisins utilisés, c'était juste ce qui était disponible. Puis honnêtement, ça reste pas mal ça. Puis pour vrai, je pense qu'il y a un talent. C'est de recevoir quelque chose puis l'interpréter. On commence à comprendre les cépages. Je sais c'est quoi la marquette maintenant. Là, je sais c'est quoi le Frontenac noir. Je sais comment ils sont différents, où ils peuvent aller. Mm-hmm. Mais c'est une partie de notre démarche. T'sais, quand on va voir notre vignoble à Oka en production, ça va changer parce que nous, on est vraiment... c'est le genre de A à Z, mais une des principes de notre démarche, c'est de comme écouter ce qu'on reçoit, ce qui est là pour nous est disponible, puis de faire ce qu'on trouve intéressant avec, mais pas ce qu'il trouve intéressant, de laisser faire ce qu'il veut faire, puis tu sais,
de pas le contrôler,
pas le contrôler, mais de
l'aligner un peu.
Ouais, l'aligner.
Il y avait beaucoup, tu sais, aussi en 18 quand on a commencé. Les vinifications naturelles sur hybride étaient quand même rares à ce moment-là, tu sais, les vraies vinifications naturelles. Mm-hmm. Puis tu sais, on parlait de sur la parcelle qui était supposée être plantée de pinot, pis ça, mais c'était dans l'époque, tu sais. Dans l'article, il y a Zach Hall de Mendelespiègue, puis les gens chez Justine, puis Julien chez Joy Hill, tu sais, avec nous, c'est les trois nommés dans cet article-là. Puis c'est à l'époque où la grande entre guillemets révolution, c'était de planter du vinifera, ou tu sais, comme les gens, dans l'esprit des gens, l'avenir du Québec, ben d'abord c'était possible de planter du vinifera, fait que les gens en plantaient, puis mm-hmm. ensuite de ça, c'était par là que passait l'avenir. Puis là, nous, on était dans cette mouvance-là, dans cette mentalité-là, mais là, quand les raisins auxquels on a eu accès, c'était des Frontenac. Puis le but, le mandat, puis je pense que c'est encore le mandat aussi, c'est de prendre ces cépages-là, puis d'essayer de donner leur, comment dire, essayer de trouver leur lettre de noblesse. Pas que les gens avant nous avaient pas fait du vin qualitatif, mais on essaie par des vinifications naturelles de faire les meilleurs vins possibles avec ces hybrides-là qui font partie du patrimoine viticole québécois.
Wow. Exactement.
C'est poétique, ça.
Non, puis même au début, je pense qu'on avait pas, tu sais, comme... On cherchait des raisins, tu sais, on essayait de voir qui pouvait nous en vendre. Puis là, on trouvait, tu sais, des gens qui pouvaient, tu sais, nous obtenir comme des espèces de cépages qui nous faisaient comme un peu peur, tu sais, des trucs qu'on n'avait jamais goûté ou si on en avait goûté, mm-hmm. ça nous avait pas beaucoup plu. Puis je pense qu'au début, comme on avait un peu peur, là, quand on était comme, ah, tu sais, genre, je sais pas, genre Sabrevoix, je sais pas, tu sais, comme est-ce que ça va donner quelque chose de le fun? J'ai aucune idée c'est quoi cette affaire-là, ça sonne pas super bien. Mais comme finalement, tu sais, je pense que maintenant, c'est comme, en essayant plein de choses avec des cépages justement qu'on connaissait pas, qu'on avait un peu aucune idée c'est quoi, qu'on apprend un peu à connaître, comme Dan disait. Je pense que maintenant, si quelqu'un nous arrive avec un cépage qu'on connaît pas, on va être comme « Ah ouais, let's go, amène-en ». C'est ça qu'on trouve, je pense, le fun maintenant. Ouais.
Je pense que c'est un peu dans le sous-texte depuis qu'on parle depuis tantôt, mais en gros, ce qu'il faut dire, c'est que les raisins, comme vous avez dit, étaient peu accessibles parce qu'au Québec, il n'y a pas assez de producteurs de raisins qui vendent leurs raisins. Je pense que c'est quelque chose quand même
important. Mais pas juste ça aussi,
dire,
c'est que ceux qui en ont à vendre, ben il y en a beaucoup qui en ont à acheter.
Ouais.
Aussi, puis tu sais, il y a cette réalité-là où les petits, ceux qui en ont à vendre, ben, c'est des grandes bannières qui les achètent.
Parce que tu sais, là où, mettons, quelqu'un qui connaît le principe de négociant en Europe, puis mettons qu'on essaie d'expliquer un peu ce qui se passe ici, puis pourquoi c'est pas possible de faire la même chose, c'est un peu à cause de ça, dans le fond.
Ben, oui, ben le vrai principe de négociant au Québec est pas encore genre, ben, comme on disait tantôt, l'image du vigneron québécois, si tu fais du vin, t'es lié à un endroit, à une terre, puis tu t'es d'abord l'agriculteur de cette terre-là, puis tu peux compenser, les lois maintenant te permettent de compenser, d'augmenter un peu ta production en achetant à gauche puis à droite. Mais c'est vrai que ce métier-là ou cette manière de être vinificateur, la division des métiers, là, être vinificateur ou être grower, qu'on voit beaucoup, beaucoup sur la côte ouest américaine puis un peu en Europe aussi, cette division-là n'est pas faite ni dans l'esprit des gens, ni non plus dans les lois puis les formes de permis puis des trucs comme ça. Et pas embrace, en tout cas. Comme nous, on le fait cette année, puis on pourra en revenir, on le fait, mais il n'y a personne qui a utilisé cette possibilité-là encore. Puis on se rend compte quand on discute avec des gens de nos vins que c'est un concept qui n'est pas automatique, qui est méconnu des gens.
Il y a beaucoup de choses qu'on a essayé de faire dans notre démarche de modèle d'affaires aussi, où on a parlé, par exemple, avec la RACJ ou la MAPAC, parce qu'on lisait les règlements et les textes de loi, puis si on disait « Ah, ben il n'y a rien qui est écrit ou qui nous empêche de faire quelque chose, comme l'idée d'avoir une terre à un endroit, un chai à un autre. » Au départ, qu'on leur demandait, ben il n'y avait pas de réponse, ils ne connaissaient pas la réponse parce qu'ils ont dit ben personne n'a jamais, ça a jamais été soulevé, c'est ça.
Une vigne au Québec, c'est une famille qui habite sur une terre, puis leur chez, une maison, ouais. Puis leur...
C'est arrivé comme à plusieurs moments, là, des histoires un peu comme ça, là, tout au long du cheminement.
Là. C'est comme compliqué, ouais, c'est compliqué, statut, ouais. Super compliqué. Là.
Ouais. C'est, en fait, c'est un peu en quelque sorte ce qui fait la beauté des fois. Quand on était chez Mathieu, il nous en parlait justement du fait que une espèce de culture de vignerons agriculteurs ici au Québec qui fait que c'est beau, mais il y a aussi d'autres défis pour ça, en fait. Ça limite quand même une certaine forme de créativité.
Mais tu sais, nous, ça limite une certaine... Mais tu sais, faut se le dire, là, quand on magasinait les terres qu'on pouvait se permettre, c'était pas nécessairement les terres, monétairement, je parle, ou qui étaient en vente, c'était pas nécessairement les terres où on voulait planter de la vigne aussi. Fait qu'il y avait comme constamment... Puis encore plus, là, maintenant, tu sais, le prix des propriétés agricoles de petit, moyen format a explosé. Donc, c'est comment dire, je pense qu'on s'associe plus à cette communauté-là d'agriculteurs, vignerons. Tu sais, on est proche de ces gens-là, d'abord parce qu'aussi on a notre parcelle aussi, mais le fait qu'on ait le sentiment d'urgence de faire du vin maintenant, avant que cette parcelle-là arrive à production, ben ça nous a forcé à créer un modèle d'affaires différent, une manière de faire les vins de manière différente.
Puis, tu sais, on s'entend que dans tout ça, on entend que c'est tellement cher acheter un terrain, planter la vigne, attendre 4 ans pour que ça soit productif, construire un chai. On parle des millions avant de faire une scène. T'sais, on parle littéralement des millions avant de faire une scène. Tu sais, fait que nous, on a fait 5 000 $ en 2018. On a acheté des raisins en 2019 avec ces 5 000 $. On a fait 20 000, je sais pas. Oui, Mathieu a raison que, genre, il y en a, lui, c'est un des meilleurs exemples, dans cette loi-là, qui fait en sorte que c'est des vignerons, vinificateurs avec leur petit domaine, puis c'est artisanal d'une certaine manière. Mais on s'entend que ça, souvent, aussi souvent, c'est quelqu'un qui a plein de cash, qui aime les vins de Californie, qui plante une vignoble pour faire des vins un peu comme ça. Tu sais, ben, il y a beaucoup. Tu sais, ben, jusqu'en 2014, c'était 100% ça. Puis, tu sais, respect, tu sais, c'était pas du tout des riches qui sont à des mauvaises intentions. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que, genre, ça donne place à, genre, une certaine genre de personne, tu sais.
Puis, s'il avait fallu qu'on attende les 10 ans qui auraient probablement été nécessaires pour faire un vignoble, l'essence du temps dans lequel on vit, l'effervescence, l'effervescence qu'on ressent dans les bars à vin qu'on fréquente, la nouveauté qu'on fréquente constamment, ben peut-être qu'on n'aurait pas été au diapason de cette vibration là, tu sais. Puis ça, c'est à la fois aussi notre recette d'un certain succès, c'est que justement on est en symbiose avec la communauté de buveurs de vin de 25-35 ans. T'sais, on est en plein dedans. On vend du vin, on boit du vin constamment. On a on a du temps, on n'a pas de famille, tu sais, tout ça. Donc, c'est comme, c'est go, là, faut y aller. Puis au pire, on sacrifie sur l'image du vigneron en campagne, tout ça. Mais c'est pas grave, on a trouvé une autre manière.
Ouais. Mais ça, à vous entendre parler, il y a quelque chose qui me frappe quand même. T'sais, on parle du modèle d'affaires de vigneron agriculteur avec la petite famille, mais tu sais, vous êtes quatre amis. Fait que là, il faudrait que vous ayez tous votre maison sur le vigneron. Genre. C'est un peu irréaliste dans la formule que vous avez. Là,
puis, mais en même temps, c'est pas tant que ce modèle-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas tant qu'on n'aime pas ce modèle-là. Je pense que n'importe qui, tu sais, qui est comme intéressé à comme faire du vin, tout ça, s'imagine puis se voit très bien, tu sais, être sur une terre qui est belle, qui est dans la nature, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait tous faire. C'est juste que là, en ce moment, où est-ce qu'on était dans notre vie, premièrement, monétairement, c'était comme juste pas une question. Genre, on pouvait pas vraiment le faire. Puis deux, tu sais, on avait tous des jobs. On pouvait juste pas comme tout lâcher puis faire ça. Immense respect à ceux qui ont fait ça. Là.
Oui,
c'est
puis
comme
notre condition de notre existence, c'est les personnes qui ont fait ça. T'sais, Martin Laroche, Grand Séjour, puis Stéphane Lamarre, Château de Cartes.
Merci,
t'sais,
à eux. Merci beaucoup à eux.
Mais ce que je pense, t'sais, aussi, c'est comme... je sais pas, t'sais, je me dis, ça devrait être plus facile. Il devrait y avoir des moyens de, t'sais, comme... Un espèce d'entre-deux entre faire du vin dans ton sous-sol pour essayer, puis tout lâcher, acheter une terre, t'endetter de plusieurs millions de dollars en sachant pas, en n'ayant aucune idée qu'est-ce que ça va donner. C'est quand même fou quand tu y penses.
La faille est où, selon toi, qu'il n'y ait pas cet entre-deux-là?
Ah, ben c'est juste parce que c'est juste les permis sont faits selon ce qui existait un peu jusque-là. Puis peut-être c'était juste peut-être que les gens de notre âge, puis tout ça, il n'y avait pas...
Cette
espèce
intérêt,
d'intérêt-là
ouais.
pour le vin. C'est sûr que maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au vin, plus jeunes, tout ça. T'sais, on voit aussi des exemples de gens plus jeunes qui se lancent là-dedans puis qui ont comme un peu pavé la voie de ça. T'sais, comme Martin, je veux dire, quand il a parti son vignoble, Martin du Grand Saint-Charles, tu sais, il n'y a pas 70 ans, Martin.
Il était jeune, puis il a travaillé 7 ans, il a continué à enseigner.
C'est ça, c'était un gros move. Je veux dire, Mathieu Dunival, comme un autre exemple de quelqu'un jeune qui se lance là-dedans.
Nous, on a trouvé notre manière de faire en sorte d'en faire une carrière avant d'avoir 50 ans. T'sais.
Mais c'est un peu cet entre-deux-là que vous décrivez, que vous êtes en train de peut-être créer puis d'inspirer des plus jeunes qui vont peut-être vouloir faire la même chose ou qui vont se dire « bon, mais c'est possible ».
D'ailleurs, s'il y a du monde qui veut essayer de quoi ou qui ont des idées de collaboration en tête, contactez-nous.
Ouais.
Pour vrai.
Ouais, écrivez-nous sur Insta, là, puis c'est officiel, là, on veut donner au suivant, tu sais, puis pérenniser cette dynamique-là. Idéalement,
pas des gars, parce que je pense qu'il y a trop de gars.
Il y a trop de dudes. for sure.
Non, mais il y a trop de vins, il y a trop de gars qui font des vins au Québec.
Puis les gars, en 2020, vous avez pris la direction du vignoble Château de Cartes, qui est situé à Denham, toujours dans les cantons de l'Est. C'est un vignoble qui cultive des variétés hybrides comme Marquette, Saint-Pépin, on en a parlé un peu, Frontenac. Comment vous êtes atterri là?
j'ai brunché avec Charles-Henri de Coussergues, à un moment donné à l'île des Sœurs. Je parlais du projet, puis je disais que je cherchais une propriété à vendre, ça, puis il me disait que Stéphane Lamarre était ouvert à avoir la relève. Donc, on a commencé un dialogue avec Stéphane par rapport à ça. On s'est rencontrés, on est allé prendre des bières à Brasserie Denham. Puis, on a décidé qu'on allait commencer par déménager les opérations de lieux communs chez eux. Puis, après ça, ben là, il y a eu, tu sais, comme, c'est un mouvement constant, là, mais grosso modo, j'ai rencontré Stéphane par l'entremise de Charles-Henri. Puis, c'est ça, on a fait un millésime là.
Toujours avec des raisins que vous avez trouvés, mais que vous avez vinifiés chez lui.
Exactement. On a amené avec nous les gens, les fournisseurs de raisins là, avec qui on bossait chez Grand Saint-Charles. Puis s'en sont ajoutés aussi d'autres chez Château de Cartes.
C'était pas les raisins à Stéphane. Ouais.
Ben c'est ça aussi, c'était même on s'ajoutait à la production de Grand Saint-Charles, on s'ajoutait à la production de Château de Cartes. Fait quoi, l'expérience chez Stéphane Lamarre, ça a été nice pour vrai, dans le sens où Stéphane nous a pris beaucoup sur le travail dans le chai, le travail avec les instruments. T'sais, avant, on faisait nos soutirages en, par gravité, par siphonnant d'une dame jeune à l'autre. La première fois qu'on a passé un vin dans une pompe, là, je me rappelle, on était comme « Ah, le pauvre vin se fait brasser! » C'était comme... Puis, tu sais, Stéphane nous a montré à organiser notre travail, tu sais, à scale up un peu, puis à utiliser les différents
outils. Je pensais que tu allais parler de la première fois qu'on a mis les raisins dans une presse de 2000 litres. Ouais. Puis ça a fini comme 36 heures plus tard. Puis moi, je me suis fait électrocuter.
Non, mais c'est ça.
C'était cowboy pas mal.
Steph, il a pas eu peur de nous jeter dans la marée. Là.
C'était le fun au Château de Cadeau. Autant avec Martin, je pense on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait la première année. On connaissait pas ça. Fait que Martin était comme beaucoup avec nous. À nous accompagner, à nous surveiller. On avait des discussions.
C'était plus pédagogue.
Stéphane, c'était vraiment comme... Je pense qu'il nous a vraiment... Je pense qu'il s'est comme... Je pense qu'il devait quand même bien rire de nous des fois.
Ouais, on avait accès à la presse quand lui finissait sa journée. Ouais.
Il nous donnait les clés de tout, puis il disait « Arrangez-vous avec toutes des bébelles qui étaient sur le bord de briser. » Souvent, comme une vieille minoune. Ouais, comme par hasard, un lift là, qui a été magané. Mais tu sais, c'était tout de l'équipement que lui... Tu sais, ce gars-là est ingénieur, il a réparé genre... toutes, une douzaine de fois quasiment chez eux. Fait que c'est tout comme un peu un vieux char où juste celui à qui il appartient est capable de le conduire. Lui, c'était un peu ça avec tout son équipement. Puis il nous laissait quand même. Jean-Louis, il partait à 9h. Il y avait des journées de fou. Alors ça, nous, on était laissés un peu à nous-mêmes avec du stock qu'il fallait vraiment, comprendre puis se débrouiller.
Chance que Laurent Noël a fait 6 heures dans l'Arctique à
ouais, il fallait se débrouiller.
Sinon, je pense pas qu'on aurait
réglé ce problème. J'ai appris à conduire un forklift chez Stéphane.
À 2h du matin.
Forklift qui avait pas de frein, fait que ça veut dire que tu dois comme te mettre en
reculé
pour freiner, puis etc.
Très sécurisant quand t'as 1000 litres
pas de lumière,
sur les fourches.
Pas de lumière dehors. Puis la première chose que je devais faire, c'était bouger une cuve de 2000 litres que Stéphane nous passait. Fait que c'était même pas à nous. Mm. En tout cas, mais c'était le fun.
Non, mais c'est ça. C'était Stéphane, il y a bien des choses. On a appris par la débrouillardise. Puis aussi, on a eu l'appel d'un grower très, très tard dans la saison qui nous a fait beaucoup plus de raisins que ce qu'on avait prévu transformer cette année-là. On avançait un peu à notre rythme. Puis, tu sais, Stéphane, c'est quand même quelqu'un qui comprend très bien les affaires du vin. Quelqu'un qui nous a donné beaucoup de pointers là-dessus sur le développement de business, puis pas avoir peur aussi de faire du vin, de pas avoir peur d'en faire. Dans le fond, quand on a reçu cette offre-là de raisin, il a dit « Refuse jamais du raisin.
» Ouais. Il disait tout le temps « T'as-tu peur? »
Faut pas avoir peur, les
Faut pas avoir peur.
Mon Dieu. Puis tu sais, est-ce qu'on a fait « too much » en 2020 à Château de Cartes? Peut-être, mais pour vrai... Les vins sont très bons. Là. C'est quand on réfléchit sur cette vendange-là, cette période de 2 mois où on a fait des nuits blanches sur nuits blanches, des allers-retours sans arrêt, donner à Montréal.
Dormir dans les U-Haul.
Dormir dans les U-Haul ou sur les poches de sucre à côté du générateur. c'est comme quasiment difficile de croire que... Mais tu sais, on a compensé ce qu'on connaissait pas, puis notre manque de comme efficacité, on a compensé en genre blood, sweat and tears.
Ouais.
Mais ça a marché, tu sais.
2022, tu sais, si tu bois une bouteille de lieu commun 2020,
on a failli passer.
Sache que Dan a dormi dans le truck you all. Sache que Laurent, après avoir chauffé un boat sur la voie maritime de Saint-Laurent, dormait pas, venait presser du raisin. Sache que Thibault faisait sa maîtrise en archi pendant les vendanges. Sache que Guillaume il s'est endormi au volant après 36 heures sans dormir. S'est endormi au volant, s'est réveillé dans la voie sens inverse parce que trop dead. Les 2020 de lieux communs nous ont fait peur, des fois mal à nous, mais après ça, après ce millésime-là, on s'est dit « Let's go les boys, on est capables.
» Puis qu'est-ce qu'il y avait de différent?
Mais je pense qu'on le goûte dans les
vins. C'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre cette cuvée-là?
Non, mais pas tant, pas littéralement, mais genre, tu sais, je pense qu'ils ont comme une espèce d'énergie, puis un côté comme... qui fait pas de compromis, genre ces vins-là. Ils sont comme sont all-in, mettons.
Les imperfections, parfois, tu sais. C'est vraiment, mettons, le vin naturel comme il est, comme on aimerait qu'il soit toujours, c'est-à-dire chacune des imperfections raconte une histoire, un moment, une décision, un imprévu, tout ça. Donc, c'est vraiment du vin pour nous qui est comme inspirant d'une certaine manière, c'est-à-dire, ben, si tu me racontes, si tu me parles à propos de la volatile sur Lucie 2020, moi, je vais te raconter la fois que j'ai pété le forklift puis que le jus est resté dans le champ un petit peu trop longtemps puis que les bactéries ont pris le dessus avant les levures, tu sais. On a accompagné ce vin-là qui ne voulait pas mourir, OK? Daniel a été le believer from the start, ouais. C'est-à-dire, OK, est-ce qu'on triple filtre, soufre, assemble dans une plus grosse cuvée ce jus-là ou... Non, man, asti, c'est pas grave, il y a une volatile, mais c'est tellement vibrant, c'est tellement vivant. OK, on le laisse, OK, on le laisse. Ah ben là, il goûte vraiment bien, parfait. On le met en barrique, on lui donne du temps. On l'embouteille le plus tard possible. Puis ce vin-là n'a jamais voulu mourir. Puis ce vin-là va continuer de vouloir vivre en bouteille aussi. C'est pas un vin qui est techniquement parfait, mais fuck, c'est un vin qui donne, puis qui parle, tu sais, puis qui raconte. Fait que ouais. Pour moi, c'est l'essence du vin d'artisan.
Puis c'est quand même dans nos vins, t'sais, celui-là, puis certaines des autres cuvées de 2020, c'est dans nos vins préférés qu'on a fait, je pense.
Les gars, on va faire une petite pause, puis on revient rapidement avec la suite. On a parlé de backstory, là, on va parler du présent.
Yeah.
OK.
On voulait vous parler d'une boucherie de quartier qui nous tient à cœur, celle de Pascal Le Boucher.
Pascal a ouvert son commerce en juin 2016. Sa boucherie est définitivement un commerce de proximité. Pour Pascal, l'économie locale, la préservation de l'environnement et la valorisation de l'agriculture paysanne sont des enjeux primordiaux.
Dès l'ouverture, Pascal a fait le choix de travailler directement avec les éleveurs et autres petites fermes locales. C'est aussi la façon dont les viandes sont achetées et travaillées qui est intéressante et peu répandue. Toujours selon le concept de « mangez moins de viande, mais choisissez la mieux », Pascal et son équipe travaillent en carcasse entière. C'est quoi ça?
En fait, ça consiste à acheter un animal complet et utiliser toute la viande possible afin d'éviter le gaspillage. L'exemple qu'il donne souvent, c'est la bavette. Sur un bœuf, il n'y a que 2 bavettes et la demande est pourtant énorme. Nous, ce qu'on aime, c'est que chez Pascal Le Boucher, on te guide, on t'explique et on te conseille d'autres alternatives afin de faire un choix plus éclairé. De cette façon, on a découvert plusieurs nouvelles pièces de viande délicieuses. Ça, c'est un service personnalisé de qualité.
Et comme vous le savez, chez Pascal Le Boucher, on trouve aussi du bon vin. Et oui, on n'a pas peur de le dire, c'est juste du vin québécois. Il y a aussi de la bière de microbrasserie, du cidre artisanal, du fromage fermier, du lait, du yogourt, des charcuteries, des plats cuisinés et même de l'hydromel.
Allez sur pascalleboucher.com pour plus de détails. Un gros merci à Pascal de soutenir Vendange Ouvert et Rivercast Media. À vous qui écoutez, on vous met au défi de résister aux saucisses faites maison. Elles sont débiles. Allez vraiment faire un tour.
On est de retour avec les gars de lieu commun.
Bon, les gars, on a parlé de votre passé, de ce qui vous a amené à ici. Ça bouge vite chez vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui s'en vient avec le millésime 2021? Mettez-nous à jour là, sur ce qui se passe avec lieu commun.
Bien, l'été dernier, en fait, on a intégré la centrale agricole. C'est une coopérative de producteurs en agriculture urbaine. Fait qu'on a maintenant un local qui est à Montréal, où est-ce qu'on produit les vins. On a d'autres choses qui s'en viennent aussi cette année, un petit peu de cidre, des nouveaux cépages, puis ouais, c'est ça.
Autre breuvage.
Puis 2021, comme millésime, si on prend le millésime au complet, là, c'est quand même une énorme année pour nous quatre. Là. On a planté 1 hectare de vigne, enfin, après 5 ans, après... le petit terrain dans le coin de Magog.
Vous avez planté ça où?
On a planté ça à Oka.
Chez Hugo Grenon, domaine Polisson.
Épisode numéro 5.
On vous invite à écouter l'épisode numéro 5 de Vendange
Ouvert. Pour tous les détails géologiques.
Ouais. Geek, là.
Ouais, c'est ça. Fait que Hugo, il a un peu expliqué ça, mais il nous a pas mal invités à venir planter 1 hectare de vigne sur ce qui est effectivement un des terroirs privilégiés du Québec. Là.
C'est ça, c'est que, tu sais, quand pendant qu'on cherchait des propriétés à acquérir, Thibault avait vraiment rassemblé beaucoup de data sur la géologie, la pédologie, ouais. la pluviométrie, les degrés jours de certaines de certains endroits au Québec. Puis quand Hugo est arrivé, puis il y avait énormément de data, puis aussi que c'était comme tout ce qu'on recherchait depuis vraiment longtemps, ben, on n'a pas hésité trop longtemps pour se dire que, hop là, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur cette terre-là. On a envie de faire du vin de cet endroit-là, for sure.
Ouais. Mais en fait, je pense que ceux qui n'avaient pas vu la terre et qui n'avaient pas rencontré Hugo hésitaient un petit peu au début. T'sais, moi, personnellement, je me disais, ben, location, tout ça, même si c'est à long terme, c'est plus risqué. Mais je pense qu'une visite là-bas, on a vu le spot, on a rencontré Hugo, puis on a fait comme, OK, non, on le fait. Là,
qu'est-ce qui vous attirait dans la viticulture?
Non, mais c'est l'idée de faire le meilleur vin possible. Ouais. Puis quand tu poses tous les gestes du champ à la cave dans cette idée-là, ben tu as plus de chances de faire un bon vin. C'est-à-dire, on peut vraiment installer notre philosophie d'agriculture, ce qu'on pense qui est le meilleur pour les sols, pour la complexité. Pour que ça amène le plus de complexité possible à nos vignes, donc aux raisins, contrôle des rendements, conserver une vie microbienne, beaucoup de vie partout dans la parcelle pour qu'éventuellement tout ça se transmette dans le vin. T'sais. C'est d'abord et avant tout cette idée-là d'essayer de faire quelque chose comme un grand vin, là. Quelque chose, mais tu sais, c'est un peu présomptueux à dire, mais tu sais, comme on travaille vraiment dans cette idée-là qu'on veut faire le meilleur vin possible. Je pense que tout le monde veut faire le meilleur vin possible, mais dans cette dynamique-là, avoir le contrôle from the start, ça devient essentiel. Ouais.
Comme on s'est lancé dans la vinification à cause de nos idées, puis nos lectures, puis nos interprétations de vins, surtout européens, on a amené cette curiosité-là, ces connaissances-là en sommellerie, entre guillemets, à la vinification. Il y avait tous les défis qui viennent avec les cépages hybrides, qui viennent avec des pH assez bas, des acidités. Mais là, on se lance dans le même genre de défis au niveau de viticulture, je pense. Mm-hmm. Comment pousser des vignes au Québec, là?
Vous avez planté quoi à Oka?
On a planté, pour l'instant, on a planté des vinifera. Fait qu'on a, en blanc, on a du chenin, on a du riesling, on a du chardonnay, on a du pinot noir, puis on a du pinot gris.
Puis du gamay.
Du gamay aussi, ouais.
C'est-tu un choix qui est limite? C'est-à-dire, c'est pas des cépages, ben le chardonnay, oui, mais c'est pas des cépages pour la plupart qui sont beaucoup représentés au Québec à date. Mm-hmm. Et pour vous, c'était quelque chose de gutsy, comme...
Ouais, mais pas chez Hugo. Ouais,
j'avais une place où on pouvait faire ça, c'est chez Hugo.
Au Québec, mais pas chez Hugo, tu sais.
Mais on va voir aussi. C'est sûr qu'on est sûrement à la limite de, tu sais, comme ouest, à la limite nord, puis à la limite géographique de où est-ce que ces cépages-là peuvent bien faire. En même temps, on se dit, on va essayer. T'sais.
Il y a beaucoup de riesling à Oka, par contre. La Cantina, ouais, vignoble un peu plus conventionnel, disons, a beaucoup de riesling. Là. Fait qu'il y a du Riesling à Oka, puis c'est sûr que si le Riesling est capable de pousser sur les basses terres d'Oka, disons, ouais, sur notre coteau plein de sud, là, je pense qu'on va avoir quelque chose.
Tu sais, c'est plus si rare que ça. Ouais. Je pense que les pinots chez Mathieu sont pas mal mûrs. Les pinots à Pervenche sont mûrs. Martin Laroche aussi, ses pinots, ses chardos sont mûrs. Zach, Ça dépend du millésime, puis au pire, s'il y a un millésime un peu frais ou avec du gel, t'assembles, tu fais des bulles, si ça, tu t'adaptes à ça. Mais tu sais, le plafond, si c'est un plafond de verre ou comme cette limite psychologique-là, nous, on a la chance d'avoir des gens qui l'ont fait avant nous. Fait que pour nous, ça n'existe presque pas, en fait, cette limite-là. Hugo, sa propriété est plantée, ses 5 hectares de vignes à lui, il y en a 4. Que c'est du vinifera, essentiellement les mêmes variétés que nous, là, grosso modo.
Est-ce qu'on peut dire que les hybrides se sont fait déclasser?
Non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'on n'a pas accès aux vinifera. On peut pas en acheter.
OK. Mmh.
On va pas arrêter notre volet négociant. Il existe beaucoup de raisins hybrides au Québec. On a des bonnes relations avec des producteurs. On les encourage dans leur transition vers l'agriculture biologique. Ils sont tout en cours, en fait, avec les producteurs avec qui on travaille. Fait qu'on s'est dit, genre, ben, nous, on va faire ça vraiment à main, artisanal, 1 hectare pour commencer, Vitis vinifera. Il y a déjà des vignobles, des hectares plantés avec des hybrides. On a accès, on a des bonnes relations, puis voilà.
Éventuellement, peut-être qu'on voudrait en planter aussi, mais comme ce qu'on remarque en parlant avec beaucoup de monde, entre autres avec Hugo, là, je ne sais pas, vous avez visité son vignoble, tu sais, les hybrides puis les viniféras, c'est comme pas la même plante, tu sais, puis c'est pas le même travail, puis c'est pas, ça fonctionne pas pareil, puis tout ça. On a pensé planter des hybrides puis des viniféras en même temps, mais là, on s'est dit, tu sais, on va y aller comme une étape à la fois. Je pense qu'on va essayer d'apprendre avec ça, puis on fera éventuellement peut-être on va planter des hybrides, puis là, ce sera d'apprendre une nouvelle chose.
T'sais. Est-ce que c'est dans les plans, peut-être, d'aller louer une autre parcelle ailleurs puis planter d'autres choses ailleurs?
Ça serait très long terme, là, ça, je pense. Le moyen terme, on va rester chez Hugo. Là.
Vous allez vous concentrer sur ce
on va planter plus d'hectares aussi, dans les plans, planter plus chez Hugo.
Chez Hugo.
Puis ça, c'était depuis le début avec lui. On s'est dit, on va commencer avec 1 hectare.
J'étais entendu sur 4 ou 5 hectares à peu près avec Hugo. Là.
Sur la propriété. Ouais. Fait que, un coup qu'on va être rendu à 4 hectares, on va être un domaine. C'est l'équivalent d'un domaine là, à part entière. Là. S'ajoutant à ça, comme Daniel a dit, le côté négociant qu'on veut conserver, parce que, juste comme Daniel, entre autres parce que c'est des gens qui ont plus d'expérience que nous dans le farming, mais aussi parce que la relation dans laquelle on est entré avec eux est super intéressante, puis ça amène beaucoup de noblesse dans notre geste de travailler avec les raisins de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, Le 2021, c'était le deuxième millésime. T'sais, on a fait comme 2 millésimes, 3 millésimes avec chacune des personnes qui nous vendent du raisin. Puis là, il y a un réel dialogue qui s'est installé. Puis là, la vraie dynamique s'installe. Puis c'est super intéressant d'avoir des réflexions. T'sais, entre autres, on a eu de la misère en fin de saison avec le radisson. T'sais. Nous, le radisson, on a vraiment aimé presque tout ce qu'on a fait avec. Mais c'est... Fait que là... C'est une bébite qui est, semblerait, un peu plus difficile. Les peaux sont plus fines, ils se rupturent plus facilement. Fait que peut-être que, tu sais, on va être plus... Tu sais, comme nous, on tient vraiment au radisson, ben peut-être qu'on va être présent dans la vie du radisson, de cette parcelle-là, parce que nous, c'est quelque chose qui nous intéresse. Fait que ça, cette partie-là, ça va rester, for sure.
Puis, dans le fond, Hugo nous a partagé la vision de son vignoble dans l'épisode qu'on a passé avec lui, un peu ses mentalités par rapport au vin, par rapport à ce qu'il fait. Comment, tu sais, vous allez planter sur le même terroir que lui? Comment vous comptez vous différencier?
Je pense que ça va venir tout seul ouais. Parce que, je veux dire, tu sais, Hugo, il apprend en ce moment, il est en train de développer une manière de travailler ses vignes. Il n'a pas la même superficie plantée que nous. Il travaille différemment. Moi, j'ai l'impression que ça va être différent, mais que ça va partager des caractéristiques communes.
Mais en fait, justement, c'est ce qui est sûr. Ben, à part le magnifique coteau, là, l'idée de planter, d'avoir deux vignerons qui travaillent essentiellement la même parcelle, t'sais, là, on rentre vraiment dans une vision genre bourguignon de genre ce qui peut se faire. T'sais. Ce qui va être surtout intéressant, c'est de goûter les vins de Polisson et les vins de lieu commun sur la brèche.
Il y a ça aussi dans la décision des cépages. C'est que le but, c'était aussi d'avoir un peu les mêmes cépages qu'Hugo pour qu'après ça, nos différences de travail, nos différences de vinification, ils vont s'exprimer, mais on va un peu partir sur les mêmes bases, c'est-à-dire le même coteau, presque les mêmes cépages. Puis le but, c'est de rendre hommage à la brèche puis à la cache, tu sais.
Surtout que vous ne vinifiez pas à la même place. Tu sais, il y a le côté levure indigène. Vous allez avoir vos levures ici. Il y a ces levures là-bas.
Ouais. Fait que pour revenir à ta question, le vin du Québec n'a pas un goût. Tu sais, il y a des régions, des sous-régions, il y a des cépages, tout ça qui partagent certaines caractéristiques, mais ça devient de plus en plus important de parler de sous-régions, là, je pense.
C'est aussi peut-être, tu sais, quand on parle, admettons, genre, tu sais, qu'est-ce que ça goûte un vin français, tu sais? Je pense que comme, tu sais, des fois, on a peut-être un peu un raccourci qu'on fait, mais tu sais, avec Daniel, par exemple, tu sais, on va dire, tu sais, ah, ça, c'est vraiment comme italien dans le style où, tu sais, c'est français. Je pense qu'il y a quelque chose comme un espèce d'esprit qui a rapport avec le terroir, qui a rapport avec les conditions climatiques, mais qui a rapport avec, genre, une tradition de plusieurs centaines d'années qui a amené les gens à, comme, vouloir puis à faire ce genre de vin-là. Je pense que peut-être qu'au Québec, la tradition est juste pas assez vieille puis assez présente pour qu'il existe quelque chose comme un vin québécois, dans ouais. le sens de comme une culture puis un esprit genre, du non, vin ça... québécois. Là. Que, Daniel, je pense que c'est sûr que tu catches ce que je veux dire.
mais oui, c'est sûr. T'sais, on s'entend, genre, le Québec est plus... T'sais, le Québec, c'est plus grand que genre une moitié d'Europe, là, je ouais. dirais. T'sais, fait que, t'sais, tu vas dans le coin de... Mettons, on a aidé Dave McMillan à planter ses chardonnays sur... À Saint-Armand. Puis, tu sais, les sols sont... C'est incroyable. C'est des gens schistes bleus. C'est vraiment dur. C'est sec, sec, sec.
Saint-Armand blue schist.
Saint-Armand blue schist. Là, on tombe sur les coteaux des Montérégiennes à Coteau-Saint-Paul et à Oka. C'est autre chose complètement. C'est des gens de calcaire sédimentaire transformés par la roche ignée, la magma, genre... Pervenche, disons, sont comme plus sur les argiles.
Les sables, les sables. De sable. Ouais.
C'est juste pas la même chose, tu sais. Genre, quand on parle de la Bourgogne, on parle essentiellement d'un coteau de genre limestone, tu sais. Ouais. Ça, c'est une chose, puis on parle de genre un million de différentes crues parce ouais. qu'il y a assez de variété dans cet endroit-là qui est essentiellement la même idée, là. Tu sais, fait moi, c'est l'idée de goûter les vins de Coteau-Saint-Paul à côté de celle à nous parce que c'est le même genre de coteau plein sud sur une Montérégienne. Ça, c'est comme ce qui est vraiment excitant. Là.
Ouais. Dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de bons vins qui se fait, de très bons vins même, puis de vins qui sont un peu sous-évalués. Là. Si je considère, mettons, les Pinots de Mathieu, Duval, que je considère t'sais, des Couchants... Des Pinot du Weigelt.
Les nuances de gris de Pinot et Fille.
Les nuances de gris de Pinot et Fille. Même les calvaires, les nouveaux calvaires. Dernier millésime de calvaire. Tu sais, comme, je pense que c'est des vins qui sont un peu sous-évalués. Puis, c'est pas de dire le grand vin dans la bouteille, c'est le grand vin dans l'imaginaire de la planète vin. Dans ouais. le sens où les Américains, les Français, les Espagnols,
une
tout
reconnaissance
le monde,
un peu, là, ouais, c'est ça.
Qui va aller au-delà de comme une tu sais, props à Fred là, pour sa présence un peu partout sur les marchés puis ça, mais tu sais comme qui va aller sur les questions dont on parle depuis tantôt de genre ok le terroir québécois, il y a quelque chose qui va au-delà de tu sais, qui se place parmi tout le monde. Puis moi, c'est ce vin-là que j'attends. Puis ça se peut que ça soit comme complètement un hasard. Tu sais, il y a des bons vins que moi, je garde en cave, que je garde ça, que je veux pas dire à tout le monde, mais tu sais, que moi, j'essaie d'acheter le plus possible, puis je mets dans ma cave, puis j'essaie de... T'sais. Mais on sait qu'il y a du bon vin déjà qui se fait, mais je pense dans l'imaginaire, il n'est pas encore arrivé cette quille-là qui s'est
élevée. Il y a quelque chose qui me dit que 2021... il va peut-être arriver. Il y a comme un, je sais pas, on dirait qu'il y a comme un contexte qui fait en sorte que là, les gens en parlent de façon plus significative. Le millésime est pas mal parfait, en tout cas. Il y en a qui disent que c'est un des meilleurs depuis longtemps. À part ceux qui ont survécu au gel du printemps, là. Puis peut-être, en tout cas.
Mais ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, je pense que aussi ce qui va être intéressant par rapport à le vin québécois, tu sais, c'est que je pense qu'on a besoin. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde qui fasse du vin.
Ouais.
Pour qu'à un moment donné, on puisse arriver à comme. C'est ça, à pouvoir dire genre. Ah, le vin québécois, c'est ça. Le travail ouais. des gens qui font du vin au Québec, ça donne.
Avez-vous bu un vin québécois dernièrement qui vous a fait vivre une émotion?
Beaucoup.
Ouais.
Beaucoup.
PNPP de Grand Saint-Charles, on capotait quand même.
PNPP de Grand Saint-Charles, ça goûte.
Ouais. Guillaume m'a donné ça à l'aveugle. Au début, je pensais que c'était un pinot allemand.
Okay. Ah ouais.
Et là, j'ai plus de temps. Je l'ai eu.
Ouais, tu donnes un peu de temps à tout ce que Mathieu fait aussi. C'est fou. Évidemment, on est des gros fans de ce que Sam fait à Raku. Ouais. Ça
ouais, la
partie.
Première fois, c'était des grosses émotions, là, le Raku. Là.
Ouais.
Imagine ça. Finalement, le Kamouraska, c'est le centre du vin de Québec.
Non, mais c'est ça. Fait que, on est... Grosso modo, on est quand même des buveurs là, de vin keb, là, nous-mêmes.
Moi, j'ai bu une Vidal de Coteau des Limousins, c'est ça,
ouais,
le nom du domaine?
Côte des Limousins.
Côte des Limousins? Ça, c'était bon, man.
Toutes les vignes à Côte des Limousins là, sont traitées avec des tisanes, ouais, des concoctions.
Okay.
2021 était vinifié sans intrants. La dame est très charmante, son nom m'échappe, mais non, ça se passe. Tu sais, à Damas aussi, on propose à tous les jours, ben souvent, tu sais, pendant longtemps, l'accord avec, tu sais, les bulles sur le premier service en accord, c'était les petits imprévus. On pop des quilles de Fred, de Pinard une fois de temps en temps. On va à Pascal Le Boucher souvent pour acheter nos quilles de consommation, qu'on veut boire pour la soirée. Fait que students of the game.
Parlant d'émotion, est-ce qu'on goûte quelques petits jus?
Oui, sûr.
Bon, on parle des vins, lieux communs, mais cette année, il va y avoir des cidres, lieux communs aussi. En fait, on voulait faire du cidre. On a eu accès aux pommes biologiques de Moyamaska, de chez Nick Pemarlo, bon ami, maître de chez, propriétaire de Coteau-Saint-Paul. Fait qu'on a pressé les pommes. On voulait pas faire des cidres, point. Fait qu'on a fait des assemblages avec des piquettes, des fleurs, et les pommes et du vin. Fait que ce qu'on va voir maintenant, ça n'a pas encore un nom, mais c'est un assemblage de pommes empire, de vin rouge Sainte-Croix, de piquettes de Vidal et de fleurs de Tagette de notre voisin Aoka, les cultures nécessaires. Fait que fleurs, pommes, vin, piquettes en pétnat.
C'est nice parce qu'hier, on a goûté la piquette de Mathieu, du Nival.
Oui, piquette de Vidal.
Qui a mis du cidre aussi dedans.
Ouais. Fait que là, ce qui est le fun, c'est qu'on est avec des sommeliers. Fait que, comme on disait tantôt, il y a pas beaucoup de vignerons qu'on a visités. Ben, il y en a beaucoup qui se débrouillent très bien pour parler de leur vin. Mais c'est le fun d'avoir des... no pressure, les gars! comment vous décrivez, mettons, ce qu'on a dans le verre?
Déjà la couleur.
Corail, on dirait.
Ouais. Rosé corail. Tu veux-tu y aller?
Ben, moi, genre, OK. Ça c'est vraiment un cuvée expérimental, hein. T'sais, évidemment, c'est ce que je viens de dire. moi, j'ai suivi tout l'élevage puis l'assemblage, puis je vois les différents éléments. T'sais, la fleur de Tagette, c'est pas un élément si important, mais je le sens.
Okay.
Il y a une côté floral, le côté un peu terreux, herbacé, de la piquette. Je sens la pureté de la pomme aussi. Évidemment, c'est très... la fermentation était très naturelle, c'est-à-dire c'est les levures de vin et de cidre qui viennent s'entremêler, puis il y a un côté comme rustique, là, genre cidre bouché un peu aussi.
Ouais. Il y a la structure tannique de la macération de pomme.
Ouais.
On sent comme les tannins des poutres de pomme. Tu sais, l'idée avec ça, c'est de faire un breuvage avec plus que juste une matière première. Parce que quand tu travailles dehors, ben, tu as plein de fleurs, de plantes qui t'entourent, puis utiliser un peu de tout, c'est ça. Puis aussi, comment dire? Ben, je sais pas que vous ressentez à la dégustation, mais c'est très festif, léger.
Ça c'est notre exemple de « bon, on va l'essayer », puis ça a marché.
À chaque année, il y en a.
Ouais.
C'est comme l'idée du breuvage aussi, je pense que Meta voulait prendre un peu, là, pas juste faire du vin ou du cidre, là. D'aller chercher, t'sais, pousser un peu les fermentations alcooliques qu'on peut faire. Là.
Tout ce qui est cidre, piquette et... autre breuvage.
Ce qui est autre que du vin, en fait.
Tout ce qui est autre que du vin va essentiellement être disponible en épicerie, le réseau des épiceries. Malheureusement, on pense que ça se peut que ce soit un peu difficile pour nous cette année de placer du vin dans ce réseau d'épicerie. C'est la structure des lois qui fait en sorte que... On essaie là, encore de trouver une solution, mais donc on va distribuer essentiellement ces breuvages-là dans le réseau d'épicerie, puis les vins vont être en restauration.
Puis là, il y a d'autres choses sur la table, de ce que je vois.
Donc ça, c'est le premier, la première fermentation de vinifera de lieu commun. C'est du Riesling qui vient pas du Québec, évidemment, parce que ceux qui ont du Riesling au Québec ne le vendent pas. Ça vient d'Ontario. Donc, c'est ça. Ouais.
C'est une méthode ancestrale, communément appelée le pet nat. On a emprisonné la fermentation alcoolique primaire dans la bouteille pour conserver le CO2 qu'elle dégage pour faire un breuvage effervescent. Ça risque de voir le marché à l'automne. On va y laisser un peu de temps. On est vraiment content du résultat. Fait qu'on va laisser le temps au temps.
Est-ce que je me trompe ou il y a une petite teinte orangée légèrement?
Il y a eu 24 heures de macération préfermentaire dessus. Très léger. Puis ça a teinté, mais ça a aussi changé le goût du vin. C'était suffisant, là. 24 heures, c'était suffisant. On voulait pas faire un vin de macération avec ça. C'était juste pour ajouter un peu de texture puis modifier un peu les arômes. Puis ça a eu un gros impact. Fait que
c'est fou, le jus. Goûtez, ouais. Vas-y, Laurent.
C'était du Nesty, là, quand c'est arrivé. C'était vraiment du thé glacé.
Citron, thé, c'était incroyable.
Dur à faire la différence.
Oui, dur à faire la différence, pour vrai.
On parle du mou?
Le mou, c'était comme ça.
Brun.
Il était un peu, tu sais, c'est ça. Nous, on n'a plus peur depuis qu'on est allé chez Stéphane, fait qu'on accède les mous. Non, mais tu sais, le jus était comme... était comme un petit peu oxydé, donc un petit peu brun. Puis pour vrai, ça ressemblait à du thé glacé. Là. Ça sentait la même chose.
Mais là, il y a encore un peu de ça. Là, ils n'ont dégorgé, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a un côté très... levurien, là, lazy, on dirait, du fermentation. Puis c'est sûr que ça va garder un peu de ça. Ça dégage un peu côté pain grillé. Feuilles de thé séchées, disons, genre. Moi, j'ai beaucoup de ça. Citron, évidemment. Là. Citronné. On n'a pas vraiment le côté pétrole du Riesling. Le Riesling en fût, il commence à le développer. À voir.
Ouais. Puis, tu sais... Mais par contre, il y a un beau côté comme floral.
Ouais, c'est ça.
La fleur de jasmin.
Exact.
Peut-être la verveine un peu. Là. C'était des raisins de très grande qualité. Et c'était une vinification qui était relativement facile à faire. Ça sentait bon d'un bout à l'autre. Ça a fermenté tout doucement, tout lentement. On s'est pas levé un matin en panique parce qu'on manquait la fenêtre pour l'embouteillage du pet nat.
Ça a demandé beaucoup moins de travail que les autres vins sur lesquels on a bossé cette année. Là.
Si on était capable de faire du bon vin avec des hybrides, là, j'ai l'impression que on va avoir moins de troubles avec le vinifera, pour être honnête. Là. Ben, apparemment, moins dans le champ, là, mais
ouais, c'est ça.
La fermentation, là, genre, je veux dire, on l'a mis en cuve, on l'a pas touché jusqu'à genre 9 semaines plus tard, puis on l'a mis en bouteille. Puis that is it.
C'était tout doux, là. Ça sentait bon.
Mais honnêtement, je pense que c'est ça, vous avez demandé tantôt, le 24 heures de macération en pré-presse, c'est fou. Puis je pense que ça donne tellement d'équilibre à ce vin-là, la petite texture à la fin, l'acidité qui est vraiment comme présente, mais qui est comme un petit peu moins que ce qu'on avait en presse directe.
Moi, je pense que ça va faire le bonheur de plusieurs personnes, ce vin-là. Mm-hmm.
De votre point de vue, de plus trop débutant, mais vous avez quand même 3 années derrière votre cravate, vous avez une expérience qui est super pertinente. Est-ce que vous avez des conseils à donner? C'est quoi votre meilleur conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans le genre de projet que vous avez fait?
Il ne faut pas avoir peur, ça c'est sûr. Sinon, de ne pas avoir peur surtout non plus de demander de l'aide, là, puis de voir ailleurs. Là. Nous, c'est comme ça qu'on a grandi, là. Le plus, là, c'est en faisant affaire, c'est grâce à Martin, Stéphane, puis tous les autres vignerons à qui on a demandé conseil. Là.
Nick Pomerleau,
oui, nous a aidé beaucoup. Hugo, ouais, on peut tous les nommer aussi, mais mais il y en a plusieurs, tu sais, c'est ça. On n'était pas gênés de décrocher le téléphone. Guillaume, il a toujours un AirPod dans l'oreille, puis on se renseigne, puis on s'informe du mieux qu'on peut. Puis c'est ça, peut-être passionné aussi, là.
C'est ça, puis c'est pas avoir peur, man, de se lancer, puis de le faire, puis de Il va avoir des écueils le chemin.
Il va avoir des nuits blanches.
Mais il va avoir des nuits blanches. Il va avoir des moments où tu vas te demander
pourquoi on fait ça.
Pourquoi tu fais ça. mais tu sais, ça reste que c'est un maudit beau métier. Ça reste que c'est quelque chose qui est super stimulant, pas routinier. Fait que les gens qui ont un petit peu de la misère avec la routine, ça peut être bon pour eux. Mais niveau du conseil, c'est choisis où tu plantes ta vigne. C'est le plus important, je pense. Choisis où tu plantes ta vigne, puis goûte tout. Puis quand tu penses que t'as tout goûté le vin du monde, continue encore parce que t'as même pas commencé. Puis quand t'arrives à un moment où tu dis que j'ai tout goûté, c'est parce que t'as rien goûté encore.
Ouais, il arrivera jamais un moment où t'as pas... où tu vas
mais
avoir
pas
tout
le même jour. Ouais.
Ouais. Puis lieu commun dans 10 ans, ça ressemble à quoi?
Pouf!
L'an prochain, on ne sait pas non plus.
Mais tu sais, c'est drôle, mais on parle de la folie des vendanges 2020, tu sais, des nuits blanches. Cet été où on a planté un hectare, on a rénové un chai, on s'est installé, on a fait toute la paperasse pour tout ça, on n'a quasiment pas dormi. Tu sais, nous, en 2022, on s'est vraiment dit que faut qu'on prenne soin de nous, genre, à un moment donné. Tu sais, on vivait un peu, tu sais, vraiment, genre... On le brûlait le matin puis le soir.
Ah ouais.
Fait que, tu sais, je pense que là, on est installé, on est chez nous, on a une certaine indépendance. Nous, on essaye de faire en sorte que nos vies deviennent complètes. Tu sais, c'est incroyable ce qu'on a fait. Tu sais, je peux pas croire que, tu sais, on est tellement chanceux de nous avoir parce qu'on a fait quelque chose de complètement fou, mais, tu sais... C'est cool parce que maintenant, ça va devenir partie de notre vie. Puis on peut justement comme prendre le temps pour les amis, la famille, puis traiter ça comme un job. Là. On a créé quelque chose.
Trouver un équilibre aussi.
Ouais,
là.
Mais ouais. C'est ça. Puis tu sais, on n'aurait pas pu faire ça. Là. Non, on n'aurait pas pu. Tu sais, si toutes les années, 2020, 2021, genre... ça aurait été...
On n'aurait plus d'amis, là. Non, déjà, il ouais. y a des gens qu'on a le temps de revoir un peu là. Puis c'est comme, ah, man, ça fait déjà genre 8 mois. J'étais pas... Écoute, c'est sûr, il y avait COVID et tout, là. Mais je te dirais que COVID ou pas, je pense pas qu'on aurait vu une bonne partie de... Fait que c'est ça, je pense que on sait pas de quoi aura l'air vieux commun dans 10 ans, mais si on peut souhaiter quelque chose, c'est que... C'est que tout le monde soit épanoui et heureux dans ce projet-là, qu'on ait réussi à trouver un équilibre entre la job, le projet, puis ce qui est alentour de ça.
Mais dans toute période de changement ou d'adaptation, de nouveauté, après ça, il faut qu'il y ait une période de, un peu de stabilité là, pour prendre votre recul, pour essayer d'aller plus loin aussi. Puis je pense
chercher
que
de la perspective.
De... Exact. Je pense que c'est sage de faire.
Ouais. Avant le prochain moment de folie. Là.
Exact.
On prendre des forces.
Exact. Merci les gars, merci d'avoir participé.
Plaisir, merci à vous.
Balado. Plaisir, merci. Longue vie à lieu commun. Bonne chance pour tous vos projets, puis continuez d'essayer de nouvelles choses, de vous laisser inspirer, puis d'inspirer vous aussi à votre tour. Je pense que...
Ça fonctionne en tout cas.
Ouais.
C'est inspirant.
Merci.
Pour nous. Puis avez-vous un mot de la fin, point varia?
Voilà. Moi, je dirais lieucommun.20 sur Instagram, bientôt lieucommun.ca sur un site web. Puis, lieucommun existe aussi beaucoup dans les événements, les dégustations, les pop-ups qu'on fait. COVID a mis un frein à ça, mais t'sais, on veut faire partie de la vie des gens, proposer l'ambiance, proposer le moment de dégustation de nos vins. Puis, on vous invite, là, si vous voyez passer un flyer, lieu commun, venez, parce que je pense que le podcast l'a démontré, on a beaucoup à dire, on a beaucoup à partager, puis c'est dans ces événements-là qu'on a la chance de le faire, fait que on aimerait vous voir, puis amener votre bonne humeur, votre sourire, puis votre soif à toutes les fois que lieu commun débarque.
Ouais, on n'a pas de domaine en tant que tel pour venir visiter et déguster, mais on va venir vous voir. Là.
C'est
mais,
ça.
C'est notre modèle. Là. On aime ça, les bars à vin.
On est capable de verser du vin. Fait que on aime ça en verser. En plus, quand c'est nous qui le faisons, ben c'est d'autant plus stimulant pour nous.
Merci les gars.
Merci.
Bye bye.
Merci.
Vendange au vert est diffusé de façon hebdomadaire. Abonnez-vous à Vendange au vert dans votre application de balado préférée.
Nous sommes sur toutes les plateformes, incluant évidemment Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify.
Je tiens à remercier nos invités, Laurent, Thibault, Guillaume et Daniel de Lieux communs. Merci également à notre chère équipe, sans qui on aurait bien de la misère à faire tout ce beau travail. Hugo pour notre technique au micro, à l'édition audio et au montage. Jean-Philippe Charret pour la musique. Je le suis sur Instagram à JP Charret. Et Constance à la direction générale de Rivercast Media.
Ce balado est une production Rivercast Media SA et cette semaine, pourquoi pas déguster un vin québécois? J'espère qu'on a ça derrière. Yes!